Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et c'est Philippe que j'accueille maintenant. Bonsoir Philippe. Allô ?
Oui, bonsoir Sabine.
Oui, bonsoir à vous.
C'est bon ?
Oui, oui,
tout fonctionne d'un point de vue audio ?
Tout fonctionne là ce soir. Je touche du bois, mais tout marche. Je vous écoute, Philippe.
Bon, parfait. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Mm-hmm. Voilà, enfin, je suis issu d'un milieu ouvrier. Des grandes entreprises, enfin, toute la famille travaille dans des grandes entreprises, on va dire, publiques. Hein. Et je suis né dans les années 60.
Oui.
Tout s'est bien passé. Enfin, je dirais que mes souvenirs heureux s'arrêtent à 7 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans ?
À 7 ans, j'ai été violé par un cousin.
Qui avait, voilà. Qui avait quel âge, lui ?
Oh, bah, lui, c'était un ado. Un ado qui avait, 8 ans de plus que moi.
Oui, donc on peut considérer quand même comme responsable, quoi.
Ah bah oui.
C'était pas un enfant, c'était pas un jeune ado, c'était vraiment quelqu'un qui savait ce qu'il faisait.
Non, il savait ce qu'il faisait, oui. Bien sûr.
C'est arrivé une fois ou c'était quelque chose, une agression répétée ?
C'est arrivé une fois. Oui. Enfin, voilà. Et c'était un vrai viol, quoi. Donc, comment dire ? Ça a failli se produire une seconde fois et je sais pas pourquoi ma mère est apparue à ce moment-là et donc c'est pas arrivé. Oui, Sabine.
Comment vous avez réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé après la première fois ? Est-ce que justement vous êtes allé voir votre mère tout de suite ou un adulte référent ?
Non, je l'ai dit à personne.
Pourquoi ?
Mes parents sont morts, les deux, hein, et j'ai. Je n'ai rien dit tant que mes parents étaient vivants.
Pour quelle raison ?
Parce que c'était un contexte familial qui aurait... vous savez, un enfant réagit comme il peut réagir, quoi. C'est compliqué. J'ai pris sur moi et en plus, le pervers qui m'a fait ça, finalement, a développé une stratégie qui lui permettait de me rendre coupable de cette situation.
Oui, comme c'est malheureusement souvent le cas.
Oui.
Quand on est enfant et qu'on n'est pas en mesure forcément émotionnellement, ni émotionnellement ni intellectuellement, de comprendre ce qui se passe, alors il y a un mélange de honte, de culpabilité, de peur.
Oui, c'est exactement ça. Et là, c'était vraiment une culpabilité et de la honte, certes. Et aussi la peur de détruire un contexte qui fonctionnait finalement, hein, d'un point de vue familial étendu, j'allais dire.
C'était le fils de qui, ce garçon ?
C'était le fils de la sœur de ma mère.
D'accord, donc votre cousin direct.
Oui, exactement. Autant vous dire, je lui en veux à mort. Hein.
J'imagine. Mais vous savez que dans les histoires de viol comme ça d'enfants, 9 fois sur 10, c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un de la famille.
Oui, je sais, malheureusement. Donc, effectivement, je pense que j'ai occulté tout ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, dès que j'ai pu partir de ce milieu, je dirais consanguin, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça que je le ressentais. Je suis parti ailleurs, je suis parti loin. J'ai vécu ma vie. J'ai changé de métier 4 ou 5 fois dans ma vie. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai une très très belle situation. Voilà, mais j'ai jamais oublié.
Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu comme une revanche sur la vie pour vous ?
Oui, complètement. Oui, je veux dire, aujourd'hui, vous savez, comme je vous le disais, mes parents sont morts. Mon père est mort il y a longtemps. J'avais 30 ans quand mon père est mort. Ma mère est morte il y a une dizaine d'années. Bon, euh, entre-temps, bah, moi, j'ai un peu fait ma vie. Voilà, j'ai été, je ne vais pas dire que j'ai été marié, on n'a jamais été marié, mais j'ai vécu avec une personne pendant 20 ans. On a eu deux enfants.
Oui.
Voilà.
Comment ça vous a, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous êtes devenu papa ? Est-ce que, du coup, ce qui s'est passé vous est revenu un petit peu brutalement ?
Oui, je pense que oui.
Ouais, je pense que souvent, quand on a des enfants, d'un seul coup, on prend conscience de notre responsabilité vis-à-vis d'eux, quoi.
J'avoue que, enfin, mes enfants sont grands aujourd'hui, hein, ils sont adultes tous les deux. Bon, j'ai eu mes enfants à 30 ans, donc, enfin, la première et puis le second 7-8 ans après. Et j'avoue que j'ai toujours été d'une prudence absolue par rapport à ce genre de situation.
Mais bien sûr.
Et donc, quand ma mère est morte, j'avais toujours un problème avec mes parents, même morts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je le reprochais de ne pas m'avoir protégé.
Ils auraient dû voir. Ben oui, bien sûr.
Ils auraient dû voir. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai toujours été d'une prudence absolue. Mmh. Enfin, si jamais quelque chose s'était produit, j'aurais fait un massacre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que...
J'imagine bien, oui.
Ouais.
Dites-moi juste pour que je comprenne le contexte, quand vous dites « ça a failli arriver une deuxième fois, ça ne s'est pas fait », qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il vous a complètement lâché ou vous ne l'avez plus revu ? Comment ça a été les années suivantes ?
Alors, malheureusement, je l'ai revu pendant longtemps parce que moi, je suis parti loin de l'endroit où vivait ma mère quand mon père est mort. Et finalement... en fait, ce qui est compliqué, c'est que je crois que j'étais un enfant qui n'était pas désiré. C'est-à-dire que ma mère m'a eu à 30 ans, ce qui dans les années 60 était très très tardif.
Plus tard que la moyenne en tout cas. Oui.
Oh, je pense oui, parce qu'à l'époque on avait des enfants à 23-24 ans, enfin, je pense. Et finalement, ce cousin et l'autre étaient ses enfants par substitution.
Oui.
Ma mère m'a toujours dit que mon père, dont la mère est morte jeune, hein, très jeune, sa mère est morte dans la quarantaine, au début de la quarantaine, et que je ne l'ai pas connue d'ailleurs. Et elle m'a toujours dit que voilà, ton père ne voulait pas d'enfant. Enfin, ça, je l'ai entendu depuis que je sais parler.
Ouais, hein, ça n'aide pas non plus à prendre sa place.
Non, ça n'aide pas du tout.
Et ça a pu jouer aussi inconsciemment sur le fait que vous n'osiez pas dire ce que vous avez fait.
Oui, sans doute. Ouais, ouais.
Parce que quelque part, si déjà vous avez l'impression qu'on ne veut pas de vous, bah, faut pas faire de vagues en plus derrière, quoi.
Bah, en fait, j'ai toujours été un enfant exemplaire, vous voyez. J'ai été premier de la classe toute ma vie. Enfin, je veux dire, jusqu'à ce que ça importe d'être premier de la classe, c'est-à-dire école primaire, collège. Après, bon, lycée, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai eu le bac.
Et c'est une manière de dire, petit, s'il vous plaît, aimez-moi.
Non, je comprends pas, là, Céline.
Quand on cherche à être le premier, quand on est petit comme ça, qu'on n'arrive pas à trouver sa place, c'est une manière inconsciente de dire à ses parents, regardez comme je suis un chouette enfant.
Ah
oui,
je comprends bien. Mais j'ai jamais eu. Enfin, pour eux, c'était normal. Pour mon père, c'était normal. Je veux dire.
Quoi que vous fassiez, c'était jamais récompensé.
Fallait être au top tout le temps, quoi. Et en fait, j'ai fait des études. Enfin, vraiment, pas grand-chose, quoi. Enfin, vous voyez, un bac plus 2, à l'époque, c'était déjà un miracle. Quand j'ai eu mon bac, enfin, je crois que j'ai été le premier de la famille à avoir le bac, vous voyez, un petit peu ce que ça donne, quoi. Et bon, j'ai fait un BTS à l'arrache parce que, je voulais aller un peu plus loin, quoi. Et puis après, bah, j'ai fait divers métiers. Aujourd'hui, j'ai un métier inespéré, quoi. Donc, je vais pas vous dire ce que c'est. Mais bon,
peu
voilà.
Peu importe, l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé un moyen de prendre votre revanche.
Bah, ma revanche, en fait, c'est drôle, Sabine, c'est ça, quoi, en fait. C'est que aujourd'hui, enfin, j'en ai voulu à mes parents et particulièrement à mon père jusqu'à il y a très peu de temps. Et je faisais bien souvent 4 ou 5 fois par semaine des cauchemars voilà, où il y avait mon père qui m'empêchait de faire des choses, quoi, vous voyez. Et puis là, j'ai essayé de commencer en faisant un peu de méditation. Enfin, c'est peut-être un grand mot parce que, enfin, vous savez, toutes ces choses-là, moi, ça me
voilà, à votre manière. Si vous avez, si vous êtes sur ce chemin-là, il n'y a pas de règle.
Voilà. Et du coup, je pardonne. Et en fait, là, je leur pardonne leur incapacité à avoir découvert que j'étais, que j'avais été, ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, il y avait des signes. Enfin, moi, mes enfants, si jamais j'avais reconnu les mêmes signes en 3 minutes, j'aurais compris. Je veux dire,
Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait vraiment des signes ou est-ce que vous avez tellement intériorisé ça qu'il était envisageable qu'il n'ait rien pu percevoir ?
Non, je ne crois pas. Honnêtement, il aurait vraiment fallu être idiot pour ne rien comprendre. Enfin, il y a eu des signes. Je ne mangeais plus.
Vous pensez, Philippe, que ça aurait pu aller jusqu'au... Comment vous dire ça ? Que l'un des deux parents aurait pu avoir des doutes, mais ne pas souhaiter mettre ça sur le devant de la scène pour le bien-être familial. Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusque-là ?
Oui, je le pense.
Ils auraient mis leur mouchoir. Oui, c'est ça que j'avais l'impression.
Je pense que mon père, bon, lui, il n'était pas capable de comprendre ce genre de truc. Et puis, il avait ses problèmes. Enfin, je vais pas en parler. Mais ma mère, je pense qu'elle a compris. Et en même temps, elle ne pouvait pas... c'était vraiment une famille en vase clos, vous voyez, donc...
Elle a été peut-être dépassée par ce qui se passait et incapable de le gérer, en tout cas.
En tout cas, bon, voilà, moi j'ai attendu qu'elle soit morte, et puis un jour, je me suis dit, cette merde, excusez-moi du mot,
oui.
je vais descendre et je vais aller lui casser les rotules, je vais le détruire. Et vraiment, j'étais à deux doigts de faire ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Et puis j'ai réfléchi. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que... Finalement, laisse-le crever, quoi. Laisse-le crever. Il a une maladie, un truc... voilà, bah, de toute façon, moi, je pense que c'est le karma, hein, vous savez. Moi, je suis catholique. Je pense sincèrement que les gens méritent ce qu'ils ont. Il a une maladie pourrie et ils vont crever. Et quand il en crèvera, vous savez, ce sont les romans de... son nom m'échappe, Albert Camus. Je dirais, puis c'est sur sa tombe. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, alors je comprends tout à fait. Je ne suis pas complètement sûre, malheureusement, que ça suffira à vous libérer. Il y a quand même des choses qui doivent être dites dans ces situations.
Oui, sans doute, mais j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un email ourbi et torbi. Et pour les vieux qui n'ont pas d'email, j'ai envoyé des lettres. Et j'ai tout expliqué. Et c'est ça, vous voyez, quand je vous dis que j'étais prêt à descendre pour le réduire en miettes, voilà, j'ai tout mis sur la table. C'est-à-dire que j'ai expliqué à toute la famille, à tous les gens qui le connaissaient, qui étaient partie prenante, frères, pères, mères, oncles, tantes, etc. J'ai tout sorti.
C'était il y a combien de temps, ça ?
Ah, ça c'était il y a 6-7 ans.
Et à lui aussi, donc en direct ?
À lui, oui, je lui ai envoyé, oui, bien sûr.
Philippe, je suis très embêtée parce que l'émission se termine. C'est d'autant plus dommage qu'on a eu un creux tout à l'heure. On n'avait pas d'appel. Maintenant, j'ai plein de gens en attente. Je vous trouve très touchant et j'aimerais vraiment qu'on poursuive cette conversation, que vous me racontiez la suite. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se retrouve demain soir en ouverture d'émission?
Bien sûr, vous m'appelez.
On vous appellera demain soir dès 22h30. Il n'y a pas de foot demain, donc on récupère notre horaire habituel. Et j'aimerais vraiment que vous me racontiez plus en détail ce qui s'est passé après, quand vous avez mis des mots sur tout ça, comment ça s'est passé. Et que vous puissiez me raconter votre histoire vraiment jusqu'au bout, si vous le souhaitez. D'accord?
D'accord.
La mission se termine, je n'ai
non,
pas le
choix.
Non,
mais je comprends, c'est l'heure.
Et je serais vraiment très heureuse de reprendre cette conversation avec vous demain soir, Philippe. D'accord?
Mais moi aussi.
Très gentil, merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain sans faute.
Merci, Sabine.
Merci, Philippe. À demain. Pardon à Georgia, pardon à Marianne que je n'ai pas eu le temps de prendre finalement. Nous nous retrouvons également demain soir. Je vous donne rendez-vous à partir de 22h30 demain jeudi pour de nouvelles histoires, de nouvelles confidences. D'ici là, je vous souhaite une très belle nuit. Prenez soin de vous et à demain. Il est déjà 1h du matin sur Europe 1, c'est donc le début des programmes de la nuit.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez libérer la parole, échanger, partager vos moments de vie en toute simplicité. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors, comme dimanche dernier, ce soir, je citerai un personnage de série. Crochet, joué par Killia Jones dans Once Upon a Time, saison 2. Je cite « Un homme qui refuse de se battre pour ce qu'il veut, mérite ce qui lui arrive. » Sortie de son contexte, cette réplique peut vous paraître très vindicative. Mais si dans la série Crochet veut à tout prix se venger de Rumpelstiltskin pour avoir tué son amour, on découvre au fil des épisodes qu'il laisse tomber cette idée qui le rend chaque semaine plus amoureux d'Emma Swan. À partir de cette fable, chacun peut envisager de trouver une voie pour éviter le combat, car il ne conduit pas toujours à la sérénité. Dans tous les cas, nous sommes là avec la libre antenne pour vous y aider. L'équipe est prête, alors 100% masculine ce soir. Aldric, Maxime et Simon Guérini qui réalisent l'émission.
La libre antenne d'Europe 1.
Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous accueillons tout de suite notre premier auditeur et c'est Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul.
Bonsoir. Je vous téléphone parce que j'ai un gros problème.
Ah, que vous arrive-t-il?
Je me suis fait opérer d'un cancer de la vessie au mois de novembre l'année dernière.
Oui.
Et ils m'ont fait une BCG thérapie. Et j'ai eu des effets secondaires. J'ai trouvé un coma au mois de février.
Alors, vous le savez, hein, Jean-Paul, je ne suis pas médecin. À certains de nos auditeurs également. Qu'est-ce qu'une BCG? Vous avez dit BCG?
Thérapie.
Thérapie. Qu'est-ce qu'une BCG? Thérapie?
Ah, ça c'est un traitement contre le cancer de la vessie.
D'accord.
On m'a enlevé la tumeur qui était dans la vessie.
D'accord.
D'ailleurs, avec une anesthésie locale, je ne vous dis pas comment j'ai dérouillé.
Ah.
Et parce qu'on ne peut pas m'endormir parce que je suis atteint d'une BPCO.
D'accord. Il y a beaucoup d'acronymes. Vous avez dit que vous êtes atteint d'une
BPCO.
BPCO, d'accord.
Donc c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive.
Donc ce sont les poumons.
Les poumons.
D'accord.
Donc, comme la BCG thérapie.
D'accord.
C'est en fin de compte. On vous instille un produit de BCG dans la vessie. participer tous les semaines.
Ah, ok.
Et vous devez garder le produit pendant 2 heures.
Oui.
Et après, ensuite, vous rejetez le produit par les voies naturelles, bien sûr. Mmh, mmh. Et ça, c'est un nouveau traitement qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années.
D'accord.
Et c'est plus fort que la chimiothérapie.
Ah oui, d'accord.
Donc, ce produit-là, enfin, comme il y a un effet secondaire au niveau pulmonaire, parce que BCG dit tétracoque, niveau dans tétracoque, c'est disons, la tuberculose. Ouais.
Mm-hmm.
Il y a eu un effet secondaire, il y a eu un retour, et je suis tombé dans le coma le 15 février.
Oh.
Je me suis réveillé le 4 mars.
Ah oui, quand même.
Ah oui, quand même, oui. Le problème, c'est que maintenant, j'ai fait des cauchemars pendant mon coma.
Oui.
Et je ne m'en remets pas.
Vous avez fait des cauchemars pendant la période où vous étiez dans le coma et vous ne vous en remettez pas?
Ah non.
À quel niveau? Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu plus et nous expliquer exactement ce que vous entendez par cauchemar et par le fait que vous n'arrivez
pas... De la mort. Que de mort.
Ah, d'accord.
J'assistais à ma mort, je voyais les autres personnes mortes, et j'ai vu Coluche mort, j'ai vu Coluche vivant, enfin bref. Par contre, les autres personnes que j'ai vues mortes et qui étaient vivantes après, je ne connaissais pas du tout.
Alors, vous aviez des personnes qui arrivaient dans vos rêves, qui intervenaient dans vos rêves, et que vous avez reconnues une fois que vous vous êtes réveillé?
Non.
Non. J'essaye de comprendre, hein. Donc quand vous dites...
Ouais, moi aussi, j'essaye de comprendre depuis hier, donc j'essaye de comprendre. C'est abominable parce que toutes les nuits, je rêve encore et j'angoisse parce que...
D'accord.
Quand je suis atteint de mes BCO et puis que je suis cardiaque, je me réveille la nuit en angoissant, quoi, j'angoisse. Quoi.
D'accord. Comment est-ce que vous voulez qu'on... Qu'est-ce que vous attendez de moi ou de nos auditeurs, Jean-Paul?
Les auditeurs, s'il y a des auditeurs qui ont déjà subi des comas comme ça.
D'accord.
Qui ont des comas comme ça, qui ont eu des cauchemars comme ça, c'est pour rien. Et je laisserai bien mon numéro de téléphone.
Bien sûr.
Problème,
bien sûr.
Parce que là, c'est abominable. Depuis le mois de mars, vous vous rendez compte, depuis le mois de mars, ça n'arrête pas.
Oui. C'est sûr que... C'est sûr que ça traîne, hein. Ça traîne mars, avril, mai, juin.
J'en ai parlé à mon médecin traitant, il me dit alors... ça partira. Alors par contre, j'ai vu mon pneumologue, parce que le pneumologue, je suis suivi par un pneumologue, il me dit, mais de toute façon, la prochaine fois, on ne vous réveille pas.
Donc on vous laisserait dans un coma artificiel alors?
On me laisserait partir carrément.
Bon. Enfin, je ne comprends pas le sens de cette phrase. Pour quelle raison est-ce qu'on vous dit ça?
Parce que je suis au stade 4 et que on craint de ne pas subir un problème post-traumatique. Ben, ils ne réveilleront plus.
Ah, Jean-Paul, vous voulez dire qu'en fait, vous êtes encore sous traitement, que pour le moment...
Oui. Mais je suis à traitement à vie. Hein.
D'accord. Que la voix, qu'est-ce qu'on vous donne chance ou possibilité de guérison, de rémission ou...
Ah, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de guérison. En BPCO, il n'y a que le 4 stades, je suis au dernier stade.
D'accord, donc c'est en fait un traitement à vie qui vous permet de ne pas continuer à faire évoluer la tumeur et qui la maintient en fait.
Oui. Ça, c'est pas une tumeur, hein. c'est les alvéoles pulmonaires qui se ferment progressivement dans le temps. Et ça se ferme, et les jours que tout est fermé, ben, parfois, vous mourrez, quoi.
Ah, pardonnez-moi, Jean-Paul. En fait, vous ne parliez pas de votre vessie, là. Vous parliez de vos poumons.
Oui.
D'accord. Ah oui, ok. Bon.
Des PCO, c'est ça.
D'accord.
Donc la vessie, c'est en rémission actuellement.
Voilà.
Les examens, il n'y a pas longtemps, c'est en rémission actuellement, mais enfin, c'est disons que le pneumologue n'a pas été par quatre chemins en me disant « La prochaine fois que vous tombez dans le coma, on ne vous réveille plus. »
D'accord. Bon. Effectivement, c'est le genre de phrase... je ne sais pas. En fait, il y a des fois où on se pose la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose de dire cela en étant extrêmement cash, voilà, franc. Et d'être dans cette forme d'honnêteté intellectuelle, de dire à son patient « Écoutez, la prochaine fois, on ne vous réveille pas. » Et en même temps, vous savez, l'aspect psychologique, justement, le mental, joue une part très importante dans une guérison. Et parfois, on assiste vraiment à des miracles. Alors bien évidemment, là, j'ai bien compris que c'était dégénératif, mais quand même, mais quand même. Bon, après, mais
j'ai pas,
voilà.
Je n'ai pas apprécié... la façon de le dire.
Quoi. Ben je vous comprends. Je vous comprends, vraiment. Donc là, en fait, l'objectif de votre appel, c'est dans un premier temps échanger avec d'autres personnes qui se sont retrouvées dans le coma, et notamment par rapport à donc, ces crises d'angoisse que vous avez. Ce stress, parce qu'en fait, quand on... Oui, c'est ça, hein, le fait de continuer... alors, je reprends, parce que là, je m'embrouille un petit peu dans mes explications. Je voulais juste expliquer quelque chose, c'est lorsque l'on fait beaucoup de cauchemars, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire oui, qu'en pareil, fait, oui. Absolument, cela veut dire qu'on élimine et on extériorise le stress, l'angoisse. Donc faire des cauchemars, c'est une façon de dire, voilà, on évacue tout ça. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt sain. Donc je fais un petit clin d'œil également aux parents quand ils ont des enfants en bas âge. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et donc, lorsqu'ils font des cauchemars, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ils sont en train d'évacuer, sauf que par rapport à l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir verbaliser ce qui leur arrive. Maintenant, pour vous, Jean-Paul, probablement que la dernière intervention a été un vrai choc pour votre corps. Après, je ne sais pas ce qui a pu se passer pendant votre coma.
Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais là à un centre pour handicapés, parce que je suis reconnu handicapé, et c'est la soignante qui m'a trouvé dans le coma. Donc, je m'en souviens de rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai rien. Je me suis endormi le 15 février, et je me suis réveillé le 4 mars, je n'ai rien su de ce qui s'est passé.
D'accord. Donc, personne ne peut vous expliquer ce qui a pu se passer pendant ce coma. D'accord. En revanche, vous, votre inconscient vous dit la mort, la mort, la mort.
Oui.
Ouais, c'est très étrange. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire de l'hypnose, Jean-Paul ?
Non.
Alors, l'hypnose est une bonne thérapie. Une bonne méthode qui permet de comprendre ce qui a pu éventuellement se passer, d'aller interroger, questionner votre inconscient pour comprendre pour quelles raisons est-ce que vous avez pensé et vous êtes presque une forme d'obsession, ou en tout cas ça revient constamment, sur là, hein, les cauchemars, c'est bien encore les cauchemars sur la mort.
Ah oui, tout le temps.
Tout le temps. Bon, plus la phrase...
Et c'est les mêmes.
D'accord, donc il y a bien un disque rayé. Il y a ce qu'on appelle un disque rayé.
Oui,
c'est un disque rayé, là. Donc, oui. Donc effectivement, vraiment l'hypnose est peut-être une bonne solution pour vous d'aller interroger votre inconscient et essayer de comprendre ce qui vous arrive ou ce qui s'est passé.
Oui. Mais moi, là où j'étais plus choqué, c'est quand le médecin m'a dit « on ne vous réveillera plus, mais non, si vous partez en coma... Bon, j'ai compris, je lui ai fait la réflexion quand même qu'il avait signé sciemment l'Hippocrate, qu'il était là pour sauver les vies, il n'était pas là pour les finir. »
Oui. Alors, vous venez de recevoir un SMS, Jean-Paul. D'ailleurs, un grand merci, parce que franchement, les auditeurs, je vous remercie, je vous dis bravo. Ça fait à peu près 3 semaines que vraiment la communauté est très active. Donc, résultat des courses, ça crée beaucoup d'interactions et de dynamisme, dans l'émission. Donc, c'est vraiment très agréable et un grand merci. Donc, il y a des forums sur Internet. La BPCO empêche la bonne oxygénation du cerveau, d'où les cauchemars et le coma. Ça, ce serait éventuellement une des suppositions, suggestions.
Je suis atteint d'une BPCO depuis 10 ans.
Ça vous est arrivé comment, d'ailleurs, Jean-Paul ?
Le tabac.
Ah oui, d'accord.
C'est une maladie qui est due spécifiquement au tabac.
D'accord. Alors, bien évidemment, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez arrêté, vous avez réussi ou pas depuis ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, j'ai obligé.
D'accord.
Et comme dit BPCO, dit cardiaque.
D'accord. Eh oui, forcément.
Comme les poumons ne fournissent plus assez d'oxygène au cœur, ça va automatiquement ensemble, quoi.
Oui. Donc, il y a un traumatisme au niveau du corps et donc les cauchemars peuvent effectivement expliquer cela. D'accord. Maintenant, comme on le disait, la piste vraiment de l'hypnose peut vraiment vous aider. Il y a d'autres choses aussi. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez pensé. C'est tout ce qui va être en lien avec la détente, la relaxation. Sur Internet, vous avez également pas mal de tutos qui vous permettent d'apprendre à vous détendre.
Et oui, je sais, parce que j'ai essayé tout ça. J'ai essayé des consultations du CCO, mais il faut que toujours des stades 1 ou 2, parce que les gens, ils vont faire des marches. Ils vont faire des marches de 10 km, 5 km. Moi, vous informez, il faut que je m'arrête, parce que moi...
Alors, Jean-Paul, pardonnez-moi, mais on ne vous entend pas très bien, là.
Oui, et je disais que...
Ah, merci.
J'ai vu beaucoup d'associations sur Internet.
Oui.
Et Herbo, par exemple, Herbo qui s'occupe de des gens qui ont un BPCO et compagnie, mais enfin, ils proposent des marches qui font 10-15 km, alors que moi... Moi, 500 mètres, c'est déjà une corvée pour moi, quoi.
Ah oui, voilà. Oui, non, il faut que ça ait du sens et que ce soit en adéquation.
Bien sûr.
Autre SMS adorable que vous venez de recevoir. Mon cher Jean-Paul, une grande force et plein de courage à ce monsieur, que la lumière vous guide et ne perdez pas espoir, amitié. Ça n'est pas signé, je ne sais pas de qui c'est, mais voilà, en tout cas...
En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent se manifester, vous pouvez donner mon numéro.
Alors, Caroline souhaiterait savoir si vous avez une assistance respiratoire.
Et je l'ai eue pendant 5 ans. Et là, on m'a sevré pour une seule et unique raison. Et j'ai eu l'oxygène à 2 litres minute pendant 5 ans.
Oui.
Ils me l'ont supprimé parce que tout simplement en me disant qu'il fallait sevrer parce que lorsque j'en aurais besoin, ils me le remettraient.
D'accord.
Parce que l'oxygène, c'est très bien. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez pris l'habitude de l'oxygène, vous risquez de faire une surcharge.
D'accord. Mais ceci étant, c'est vrai que, merci Caroline, elle dit cela éviterait les cauchemars et elle vous souhaite bon courage. Je suis assez d'accord aussi, hein. C'est vrai que plus on oxygène son cerveau et forcément, moins on est dans le traumatisme corporel.
Ouais,
et voilà, pour les cauchemars, on est bien d'accord. Hein. Je pense que
J'ai acheté ce qu'il fallait pour prendre la saturation, j'ai l'appareil de saturation, je fais les arrières au sol matin, midi et soir.
Ouais. Vous dormez avec un appareil ?
Ah non, je ne peux pas, je ne supporte pas. On a essayé. De la VMI, on a essayé.
Voilà.
Non, ça ne marche pas, je ne peux pas supporter. C'est pas possible parce que c'est l'appareil qui, si vous voulez, qui vous règle votre respiration. Et moi, je ne peux pas. On ne peut pas, au bout de 30 secondes, on va lâcher l'oxygène. Non, je ne peux pas.
Ah ouais, ça...
Et donc j'ai des arrêts au sol, j'ai un corticoïde, j'ai des poules cœur, c'est pareil, j'ai un traînement qui est très lourd.
Oui.
Donc bon, j'ai des stènes dans le cœur. Bon.
Oh là. Voyez Caroline qui vous redit à votre stade, vous en avez besoin, Jean-Paul.
Oui, je sais. Je sais.
Et il n'y a vraiment, vraiment pas moyen de pouvoir vous aider à vous habituer ou à trouver une solution pour que vous puissiez oxygéner votre cerveau le soir quand vous dormez?
Je ne vois pas autre chose.
Vos poumons, tout ça? Comme quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, hein. En fait, c'est exactement la même chose.
Si vous voulez, j'ai un protocole le matin quand je me lève, j'ai un protocole parce que j'ai des chaussettes de contention. Le matin, je me mets assis au bord de mon lit pendant au moins une demi-heure avant de pouvoir me mettre debout.
J'entends Jean-Paul, j'entends parfaitement. Mais on est bien d'accord que là, depuis quelque temps, il se passe quelque chose. Donc il y a une alerte.
Ah, oui.
Il y a une alerte. Vous êtes en état de... Votre corps est en état de stress. Donc...
Ah oui.
Eh oui. Donc, il va y avoir peut-être un effort à faire quelque part. Vraiment.
Ah oui, tout à fait.
C'est ça qu'on est en train de se dire. Et on est bien d'accord. Ouais. J'approuve complètement le SMS de Caroline. Il y a un effort à faire, là, si vous voulez.
Oui. Mais alors, le moral a pris un coup, le jour que mes amis m'a dit ça, à chaque fois, vous ne réveillez pas encore. Ça m'a détruit.
Alors, c'est peut-être aussi un moyen, c'est un moyen, il vaut ce qu'il vaut, de vous dire il faut se secouer là, il faut faire quelque chose.
Ah oui, mais se secouer, on ne peut pas se secouer dans ces conditions-là, on ne peut pas. Puisque moi, je fais 50 mètres à pied, ça y est, c'est fini, il faut s'arrêter, il faut que je me repose.
Oui.
Oui, c'est ça le problème.
Bon.
Bien.
En tout cas, si jamais nous avons des auditeurs qui vous laissent, qui souhaitent entrer en contact avec vous, Jean-Paul, vous pouvez compter sur nous. Nous vous mettrons en relation avec eux. Et donc, je relance l'appel, si j'ai bien compris. C'est si vous aussi, si quelqu'un comme Jean-Paul a vécu un coma, vous aimeriez en fait, en tout cas, échanger sur ce sujet déjà. Et autre chose aussi peut-être?
Si bébé Léo, bon, c'est tellement connu maintenant que...
Oui, donc quelqu'un qui est comme vous sur...
Oui, un peu, oui.
Sur le BPCO, c'est ça? Oui, d'accord.
C'est ça.
Très bien, écoutez, on prend note et on vous tient au courant. En tout cas, vraiment, je vous souhaite un prompt rétablissement. Prenez soin de vous.
Merci.
Et à très bientôt, j'espère.
Merci, au revoir.
Au revoir, Jean-Paul.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous accueillons maintenant notre prochaine auditrice et c'est Laurence. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir, Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci, merci. Bon, j'avoue que j'ai un peu le trac.
Bah, moi aussi, hein.
Oui. C'est vraiment nous deux. Ça, vous avez plus comme dites que moi de passer l'antenne. Oui, je voulais vous partager un peu un état que j'ai du mal à comprendre.
Dites-nous.
J'ai divorcé en fait il y a plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, je constate que je n'arrive pas à reconstruire une histoire dans le temps à cause d'une certaine ambivalence, en quelque sorte, une certaine contradiction, une espèce de force intérieure qui me dicte l'inverse de ce que je souhaite. Et j'arrive pas à comprendre, en fait. Je pense que ça vient de moi, que c'est un blocage en moi, mais j'aimerais que vous puissiez m'éclairer peut-être sur ce blocage que je ressens.
Alors, on va démarrer par le commencement, à savoir, il y a 10 ans, vous avez divorcé de votre époux.
Oui.
Ça c'est. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous?
Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui est tombé dans l'alcool. Enfin, que j'ai pas vu, hein, honnêtement, ce qui s'était produit. Donc, ça a été progressif jusqu'à un moment de non-retour, j'ai envie de dire. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais enceinte de mon troisième enfant.
D'accord. Donc, vous avez 3 enfants.
Oui.
Okay.
Cet homme-là, J'ai vraiment réalisé l'importance de la problématique quand j'ai été enceinte de ma petite dernière, en fait.
Et c'était quelle problématique, Laurence ?
L'alcool.
D'accord. Donc, vous étiez avec quelqu'un de... Vous vous en êtes rendu compte comment qu'il y avait un problème d'alcool ?
Parce qu'il a été violent, en fait. Quand j'étais enceinte, alors bon, bien sûr, je voyais bien qu'il buvait, mais c'était, il disait toujours bon vivant. Mmh. Et donc, on organisait souvent des week-ends entre amis. Effectivement, il y avait la joie de vivre un petit peu chez tout le monde, hein, d'une façon générale.
Ouais.
Sauf que chez lui, ça a basculé, en fait, à un moment donné. Et donc, il s'est montré violent alors que j'étais enceinte. Et c'est ce qui m'a fait l'électrochoc, en fait, pour moi.
Oui.
Ça a été vraiment le réveil du matin. Et là, je me suis dit, oula, il y a un problème, il y a vraiment un souci.
Et quand vous dites violent, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ?
Il est rentré un soir et je ne sais plus exactement comment c'était produit, mais j'avais fait une tartiflette, je crois, tout simplement à la maison, et ça sentait mauvais le fromage. Et il est arrivé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais à tes enfants ? Tu donnes de la cochonnerie à tes enfants à manger ?» Et puis c'est parti de là, en fait, tout simplement. Donc l'un de mes fils s'est braqué, il est monté dans la chambre, il l'a coursé, il l'a frappé.
D'accord.
Et donc moi, je suis montée aussitôt pour protéger mon fils, hein, et je m'en suis pris une. Je m'en suis pris une également, et voilà, ça a démarré de là. Donc moi, ça a vraiment été le déclencheur pour moi de l'état, qui s'est confirmé ensuite par des prises de sang, avec des gammages étaient très très élevés, et puis des visites chez l'alcoologue, parce que je refusais, en fait, de renoncer à cet homme que j'aimais, quoi.
Oui. Oui.
Et donc, je me suis acharnée, j'ai passé ma grossesse, en fait, à essayer de sortir de sa problématique.
D'accord.
Jusqu'au jour où l'alcoologue m'a dit, madame, il faut que vous sortiez du jeu, parce qu'il faut qu'il se prenne en main lui-même, quoi. Ça n'a jamais été le cas. Donc, bref, au bout d'un moment, il n'y avait pas d'autre issue. C'était une question de survie, en fait, pour moi et mes enfants, en fait, de mettre un terme à ce mariage, en fait. Donc j'ai divorcé contrainte et forcée, réalité.
Voilà. Donc c'est bien ça, en fait. Vous n'aviez pas forcément envie de vous séparer de cet homme, mais en revanche, pour protéger vos enfants, c'est en cela que vous dites contrainte et forcée.
C'est ça.
Mais alors, Laurence.
Peut-être qu'il n'y avait plus d'amour non plus à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était de l'amour ou de l'attachement. Enfin,
oui. Ça faisait combien de temps ?
J'ai beaucoup travaillé ça.
Vous étiez mariée depuis combien de temps ?
Ça faisait 20 ans. On était ensemble depuis 20 ans.
20 ans, d'accord. Alors, donc, contrainte et forcée, pas forcément, voilà, pas envie de quitter cet homme que vous aimiez ou auquel vous étiez attachée.
Mm-hmm.
Comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez vécu cette période après le divorce ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?
Quand j'ai eu le courage d'aller voir un avocat et de demander le divorce, en fait, tout s'est retourné contre moi, c'est-à-dire qu'il m'a fait porter le chapeau de tout en me disant que j'étais la responsable de son échec professionnel, de tout ce qui s'ensuit, donc j'étais la méchante, en fait.
D'accord.
J'étais la méchante et il a pris le contre-pied en partant un jour,
mmh.
du jour au lendemain, et il m'a laissée donc avec mes trois enfants, dont un bébé. Et il est parti, je ne sais pas où. Je ne savais pas où. Donc il m'a laissée avec les crédits de la maison, la gestion des enfants, bien entendu, mon travail, etc., etc.
D'accord.
Et donc j'ai dû faire face. Seule.
Toute seule.
À cette problématique, quoi.
Ah oui.
Donc, j'avais pas d'autre choix, en fait, par rapport à mes enfants, de rester debout.
Mmh.
Bon, je suis tombée en dépression, bien entendu, hein, ça c'est clair. Ce qui a entraîné une perte de mon emploi.
Ah oui.
Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, c'est bien connu.
Mmh.
Donc voilà, après je me suis fait suivre au niveau thérapie, mais j'ai pas eu de chance là non plus parce que je suis tombée sur un thérapeute qui a abusé de ma situation.
Vous nous avez dit que ça faisait 10 ans que vous étiez séparée de votre époux.
Oui.
Est-ce que, donc 10 ans où c'est fini, plus de contact hormis pour les enfants, ou comment ça se passe depuis 10 ans ?
Même plus pour les enfants, parce que en fait, quand il a demandé le divorce, en fait, comme je le disais, il m'a tout rejeté sur, il m'a tout remis sur le dos et il est parti. Il a tourné le dos non seulement à moi, mais à ses enfants, en fait. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que mes enfants n'ont pas vu leur père.
Est-ce que vous savez où il est ou pas du tout ?
Alors si, j'ai remonté le filon, j'ai réussi à le retrouver à un moment donné, puisque j'avais une maison sur le dos quand même, que j'assumais seule, et qu'il a bien fallu vendre à un moment donné. Donc j'ai retrouvé sa trace à ce moment-là, en province, très loin, là où on n'avait pas d'amis, pas de famille. C'est assez surprenant.
D'accord, donc lui, une façon pour lui de complètement tourner la page.
C'est
et de recommencer probablement autre chose, et ouais. Différemment peut-être. Bon, de toute
D'accord.
façon, voilà, moi j'ai pour habitude de ne pas parler des gens quand ils ne sont pas là, parce qu'il ne faut jamais penser à leur place, et